Le journal, Christophe Beck. Bonjour Christophe.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et si vous choisissiez le car pour ce pont du 15 août, on a testé pour vous et surprise, la promesse d'un voyage à bon marché n'est pas toujours tenue. Dans un instant, l'enquête de Maxime Deps. Près de 900 hectares de pinèdes parcourus dans le sud-est de Carcassonne, mais un feu d'une autre ampleur ravage l'île d'Eubée en Grèce. Nous rejoindrons Angélique Kourounis dans ce journal. Le Maine-et-Loire réclame la reconnaissance de calamité agricole pour faire face à la sécheresse qui éprouve les champs et les étables, une première. Les climato-sceptiques ont-ils été surmédiatisés? Et leur thèse en même temps? Oui, répond la revue américaine Nature Communication. En football, Liverpool remporte la Super Coupe d'Europe face à Chelsea sous la surveillance de Stéphanie Frappard qui a réussi son entrée en scène d'arbitre française à ce niveau de la compétition.
Notre invité à 8h moins le quart, le cinéaste Guillaume Niclou qui a réalisé un film atypique, son titre Thalasso, avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu.
France Inter.
L'offre est alléchante, mais la promesse pas toujours au rendez-vous. Et si les cars Macron déviaient de leur ambition initiale, voyager à un rythme lent et à moindre coût, un brin aventureux, on a voulu tenter le départ en dernière minute, en ce week-end du 15 août. Les trains étant pleins, les avions aussi, vous avez tenté l'option car, Maxime Deps, l'option car, et c'est raté.
Aller à Nice, sur un coup de tête, ce sera pour la prochaine fois, en s'y prenant il y a 3 jours, un peu tard, c'est vrai. Au mieux, a-t-on trouvé sur le site de Flixbus un aller-retour à 155 €, des tarifs qui ne surprennent pas outre mesure les usagers adeptes de l'autocar rencontrés hier en gare de Bercy.
Les prix ont l'air de grimper rapidement, on va dire. Il y a des tarifs proposés qui sont quand même un petit peu abusés.
Des fois, je peux trouver un train Paris à 10 €, donc je vais le prendre. Et des fois, 90 € et je ne vais pas les prendre.
Dans nos recherches, nous sommes, nous, tombés sur un Paris-Nice affiché hier chez Ouibus à 123 € ou encore un Massy-Palaiseau-Nice, 20 heures de route passées du jour au lendemain de 118 à 149 €. Un simple aller à vous faire hésiter sérieusement avec le train plus rapide et pourtant pas donné en cette période. Voilà ce que Flixbus nous a répondu.
Tous les billets dont vous parlez n'étaient pas à 100 ou 150 €. On avait des billets qui commencent à 5, 10, 15 €.
Quoi qu'il en soit, pour Jean Rosado, directeur adjoint de Flixbus France, tous les billets trouveront preneur.
On a toujours trouvé des clients parce que la demande est extrêmement forte. En plus, on propose les quarts de nuit qui permettent aussi à nos clients d'arriver très tôt le lendemain matin à destination et d'économiser une nuit d'hôtel estivale.
Et n'en demeure pas moins pour ce dernier qu'on ne fait aujourd'hui pas moins cher en France que les quarts, mais de peu. Ce week-end, pour les allées vers Nice, hier, les prix affichés par la SNCF étaient sensiblement les mêmes.
L'enquête de Maxime Deps. Au Havre, plus d'une tonne de cocaïne saisie par les douanes dans un chargement de cœur de palmier en provenance d'Équateur. Valeur de la marchandise, plus de 74 millions d'euros. C'est la plus importante saisie de cocaïne réalisée cette année en France.
Christophe, la sécheresse, toujours très présente en France, malgré le léger fléchissement des températures.
Oui, la sécheresse qui éprouve les sols et les bêtes. Agriculteurs et éleveurs sont inquiets car les nappes phréatiques sont au plus bas. Plus bas encore qu'en 2018, 83 départements sont toujours en restriction d'eau. Dans les champs, les cultures de printemps, mais maïs et tournesol par exemple, ont du mal à se développer et les éleveurs manquent déjà de fourrage. C'est le cas notamment dans le Maine-et-Loire qui demande pour la première année, Manuel Ruffez, la reconnaissance de calamité agricole.
Les petites pluies de ces derniers jours n'y ont quasiment rien changé. On le voit bien en avançant dans ces champs. Les maïs d'Emmanuel Lachaise, installés depuis 20 ans à Brion, ces maïs donc ont mauvaise mine.
Bon, on voit que c'est sec, on sent que c'est sec.
De toute façon, quand vous marchez dans le maïs, là, vous marchez, vous voyez le bruit que ça fait Ça fait du maïs qui est grillé, et bien en fait, ça fait comme quand vous êtes au mois d'octobre ou au mois de novembre pour récolter du maïs. Ça fait le même bruit, on est à peine au 15 août.
On peut aller voir une prairie, c'est possible?
Oui, c'est pas de problème.
Emmanuel est associé avec 3 autres agriculteurs. À eux 4, ils sont polyculteurs-éleveurs. En plus de leurs champs cultivés, ils ont des prairies où normalement paissent leurs 80 vaches laitières. Normalement, parce que là, tout est cuit.
Hop, on passe sous le barbelé.
Eh bien, même une prairie naturelle, aujourd'hui, elle est paillasse. Alors, quand on dit elle est paillasse, c'est-à-dire que l'herbe, elle n'est pas du tout haute, il n'y a plus rien, et c'est surtout que c'est tout jaune. C'est-à-dire que vous n'avez rien du tout à donner aux animaux. Quand j'en discute avec Thierry, mon associé, on se pose vraiment la question de dire à quel moment on a connu une année où, en fait, en plein mois d'août, on avait tous nos animaux de rentrée.
Ils vont s'en sortir, malgré tout, cette année, Emmanuel Lachaise et ses associés, mais parce qu'ils ont anticipé ces aléas climatiques en faisant du stock pour leurs bêtes, en s'assurant aussi une nouveauté. Bref, souligne Emmanuel, ils ont changé leur façon de travailler.
La sécheresse et les feux de forêt, les hostilités reprennent ce matin au sud de Carcassonne pour tenter de maîtriser un incendie qui a déjà parcouru près de 900 hectares de végétation depuis hier après-midi. Parti de Montmirat, le feu progresse ce matin vers Pradelles-en-Val. Plus de 500 pompiers sont à pied d'œuvre, épaulés par 5 canadaires. 22 personnes ont dû être évacuées et une ferme a brûlé. En Grèce, c'est un véritable spectacle de désolation qui s'offre au secours de l'île d'Eubée, où un violent incendie progresse sur un front de 12 km. Il n'y a pas de victimes, mais 4 villages ont dû être évacués. Dans la nuit, les flammes ont repris de la vigueur et on change de direction. La mobilisation reste maximale. L'inquiétude aussi. Angélique Kourounis.
À Platana, un village en pleine forêt, tout le monde est sur le pied de guerre. Sur la place du village, on regarde la montagne en face qui se consume. Policiers, pompiers, militaires, voltigeurs même, deux par deux sur les motos, ne cessent d'aller et venir. Pour Apostolos Bénévole, qui revient tout juste du front, c'est trop et inefficace.
Nous, on n'attendait pas le feu dans la rue. On n'avait pas 100 chefs avec 100 toki-woki, 100 conducteurs qui commandaient. Ça ne marche pas comme ça. On avait un chef, le garde forestier.
À côté de lui, Katerina Ioannidou, bénévole elle aussi.
On a aidé les animaux, on a laissé de l'eau et de la nourriture. On a aidé les pompiers, les bénévoles, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls.
Plus de 3000 hectares sont partis en fumée. Les pompiers ont prévenu, il faudra encore plusieurs jours pour venir à bout de cet incendie, le temps que le feu dévore toute la forêt centenaire. Platana, Angélique Kournis, France Inter.
Sécheresse et incendie, les climato-sceptiques ont-ils été surmédiatisés depuis le début des années 2000? La réponse est oui, si l'on regarde de près la dernière étude de la revue américaine Nature Communication. Cette surreprésentation a même pu ralentir la lutte contre le réchauffement, Célia Kiray.
Les chercheurs ont épluché pas moins de 100 000 articles de presse écrite ou publiés sur Internet entre 2000 et 2016 dans une centaine de pays. Des articles anglophones, ils ont cherché les citations et les noms de plusieurs centaines de climatologues, universitaires, entrepreneurs et hommes politiques. Ils ont compilé toutes ces données et ils parviennent à un résultat troublant. Les climato-sceptiques, ceux qui doutent du réchauffement, ont bénéficié de près de 50% de visibilité en plus par rapport à ceux qui considèrent que la hausse des températures est bien réelle. Des journaux comme le New York Times ou le Guardian ne sont pas épargnés. Ils ont en effet donné plus souvent la parole à des climato-sceptiques. Or, une telle disproportion dans la visibilité médiatique sape la crédibilité des climatologues, selon cette étude. La responsabilité des médias est donc engagée. En France, les climato-sceptiques ont moins le vent en poupe, mais certaines enquêtes d'opinion ont pu montrer que l'effet de ces prises de parole est bien réel. En septembre dernier, dans un sondage pour l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 30% des personnes interrogées estimaient par exemple que les climatologues exagéraient les risques du réchauffement.
Les explications de Célia Kiray.
Il est 7h38, le journal Christophe Beck. Christophe, le dossier du chantier de Notre-Dame de Paris.
Faut-il reprendre le chantier au plus vite, comme le préconise le ministère de la Culture, en raison des risques d'effondrement? La canicule a encore fragilisé l'édifice, ou faut-il le stopper, comme le réclame l'ONG Robin des Bois, en raison de cette menace d'effondrement et du risque plomb? Le chantier doit normalement reprendre lundi. Jacques Bonnemince, le président de l'ONG, demande la suspension des travaux et l'élargissement du périmètre de sécurité. On l'écoute.
Il faut non seulement suspendre durablement le chantier jusqu'à ce que les incertitudes sur la stabilité de l'épave soit réduite. Et puis aussi, il faut étendre le périmètre d'éloignement. C'est invraisemblable de voir que rue du Cloître Notre-Dame, il y a ce flux de touristes qui continue à passer et qu'il y a des affiches seulement en français évoquant la présence de plomb, les poussières tourbillonnantes, tombes des beffrois, des clochetons, des gargouilles et de cet échafaudage, ce sinistre échafaudage de 4000 tubes qui a résisté à l'incendie. On demande que là, des précautions maximales soient prises, tant pour protéger les populations et les riverains des poussières de plomb, que pour protéger les travailleurs des risques physiques, des risques mécaniques et des risques de contamination par le plomb.
Jacques Bonnemince, président de Robin des Bois, interrogé par Louis-Valentin Lopez. Les 75 ans de l'autre débarquement allié, célébré aujourd'hui à Saint-Raphaël, le débarquement de Provence. Emmanuel Macron accueille les présidents de Guinée et de Côte d'Ivoire. Ce sera la première sortie officielle du chef de l'État depuis son départ en vacances fin juillet. À Hong Kong, face au bruit de bottes, les appels à la modération se multiplient. Donald Trump dispense des conseils d'humanité au président chinois Xi Jinping. À Paris, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dit l'attachement de la France au statut d'autonomie du territoire de Hong Kong. Pendant ce temps, des forces chinoises sont rassemblées dans un stade de Shenzhen, des hommes et des blindés. Au Canada, Justin Trudeau fait amende honorable dans l'affaire de conflit d'intérêts qui lui est reproché. Il est accusé d'avoir fait pression sur son ex-ministre de la Justice pour qu'elle intercède en faveur d'une société québécoise. Justin Trudeau dit assumer ses responsabilités, mais affirme avoir agi dans l'intérêt du Canada. En Italie, camouflet pour le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. La justice administrative désavoue sa politique migratoire et autorise l'Open Arms à faire route dans les eaux territoriales italiennes. Mais Matteo Salvini fait savoir qu'il bloquera le navire malgré cette décision administrative. Pas de traces de coups ni de violence sur le corps de Nora Quarin, cette adolescente franco-irlandaise portée disparue en Malaisie depuis la nuit du 3 au 4 août dernier. L'autopsie révèle en revanche une hémorragie interne de l'intestin. En football, le choc des Anglais arbitré par une Française a tenu ses promesses. Liverpool s'est adjugé la Supercoupe d'Europe, battant Chelsea dans les tirs au but. 5 tirs au but à 4, au terme d'une rencontre palpitante. Arbitrée par la Française Stéphanie Frappard, qui a elle aussi réussi cette première en tant qu'arbitre principal. C'est en tout cas le point de vue de Nelly Viennot, première arbitre assistante française à avoir officié en Ligue 1. Elle est éblouie par la prestation de Stéphanie Frappard.
Pour moi, elle a fait une excellente prestation. Elle a été très proche des actions, elle a été très forte physiquement. C'est un nouveau tremplin de franchi et c'est excellent pour non seulement l'arbitrage féminin, mais pour l'arbitrage tout simplement, parce que les lois du jeu sont les mêmes pour les garçons comme pour les filles. Et aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'on ne fasse plus la différence en disant « c'est une arbitre féminine, mais c'est simplement une arbitre, un arbitre ».
Voilà donc Nelly Viennot, arbitre assistante française. C'est presque devenu un nom commun, Woodstock, le plus grand festival musical du XXe siècle qui aura marqué plusieurs générations et changé l'histoire du rock'n'roll. Woodstock débutait il y a tout juste 50 ans, le 15 août 1969.
C'était le journal de Christophe Beck.